Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Le colonel Assimi Goïta, désormais président de transition au Mali, sera-t-il l'homme providentiel ou plutôt un bourreau pour son pays? Tiendra-t-il ses promesses? Nous en parlons ce soir dans votre émission, mais d'abord un autre sujet politique, le Tchad, dans Décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Soussé Masra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du parti d'opposition des transformateurs au Tchad. Votre parti a enfin obtenu mardi 8 juin une autorisation de fonctionner, une reconnaissance officielle que vous attendiez depuis 3 ans. Qu'est-ce qui a contribué à ce dénouement?
Écoutez, je crois que la raison est revenue. Nous avons été combattus injustement pendant 3 ans, alors même que nous avons tout fait et que nous étions au regard de la loi en vigueur, totalement un parti politique, mais par l'arbitraire, on nous a astreints à un rôle de parti non reconnu par l'administration, alors que reconnu par la loi. Et donc aujourd'hui, j'ai le sentiment de quelqu'un dont on a enlevé le haut de l'habillement et on remet l'habillement. En fait, est-ce que je dois dire merci? Merci pour la fin de l'injustice, d'une certaine manière. Et donc, avec... en tout cas, une pensée pieuse pour les 16 des marcheurs issus de mon parti qui ont été assassinés pour avoir marché justement pour revendiquer la justice. Et parmi les justices qu'on revendiquait, il y avait la question de l'arbitraire qui était appliqué à notre parti. Et ils ont demandé des excuses. Eh bien, nous sommes des hommes de paix. Nous les avons pardonnés. Mais nous avons dit que les grands combats sont devant nous et c'est sur ces combats-là maintenant que nous voulons jauger leur bonne foi pour une transition civilo-militaire. Voilà le combat pour l'avenir.
Qui a demandé les excuses au parti Les Transformateurs?
C'est les techniciens du ministère de l'Administration qui avaient reconnu, en présence d'ailleurs du général Gilles qui était là et qui nous a remis le document, mais c'est les techniciens même du ministère de l'Administration du territoire qui ont reconnu qu'en fait, ils avaient fait leur travail dans la durée. Toutes les diligences étaient menées, mais que, curieusement, les gens avaient refusé simplement de prendre une autorisation de fonctionner au parti.
Et qui tenez-vous pour responsable du fait que, depuis 3 ans, le parti des transformateurs n'a pas pu avoir d'autorisation d'existence?
C'est le système. Le système qui veut d'ailleurs essayer de survivre. Et ce système-là, le chef de ce système, c'était M. Déby. Ce n'est pas parce qu'il est mort aujourd'hui qu'on ne peut pas enlever cela. Et quand il nous a reçus le 16 mars, un mois avant son décès, nous lui avons dit, et nous avons écrit d'ailleurs, qu'on nous a dit que c'est lui qui a demandé qu'on le persécute et que nous n'osons pas croire parce qu'il était le garant de la loi. Et donc, est-ce qu'il peut nous regarder dans les yeux et nous dire que pour lui, nous ne sommes pas un parti? Il a dit, non, il n'en était pas question et que pour lui, nous sommes totalement un parti. Et nous lui avons dit, alors à ce moment-là, dites à l'administration de s'assurer que plus personne ne nous considère comme un parti illégal.
Considérez-vous cette légalisation comme une volonté des nouvelles autorités de détendre et de décrisper l'atmosphère politique?
Si telle est la volonté, c'est une bonne chose, voyez-vous. Mais là où ils sont le plus attendus, ce n'est pas le sort des partis les transformateurs, c'est le sort de l'ensemble des Tchadiens. Et donc, nous les attendons sur leur capacité à montrer la bonne foi au-delà du parti les transformateurs, d'agir pour les 16 millions de Tchadiens. Nous allons nous déployer comme jamais auparavant et nous préparer pour aller gagner la présidentielle afin de transformer notre pays. Voilà l'enjeu devant nous. Voilà la mission que le peuple nous assigne. Voilà le combat qui nous engage. Et donc, oui, lorsque l'arbitraire cesse, les énergies de la transformation du Tchad seront libérées.
Le bureau exécutif national du Parti des Transformateurs est composé de 5 membres. Avec vous à la présidence, assisté de 4 vice-présidents, dont une femme. Sur la question de la parité, il y a encore manifestement à redire, docteur Masra.
Sur les 5 membres qui accompagnent, en tout cas qui sont dans le bureau, il y a 2 femmes. Voyez-vous,
oui,
nous sommes au-delà des 30 femmes.
Mais l'autre, la deuxième femme est conseillère et pas vice-présidente.
C'est une conseillère stratégique chargée de l'engagement des personnes âgées dans notre pays. Mais en fait, l'équipe plus élargie est plus grande que cela. C'était d'ailleurs un des débats. Nous avons transmis une liste. Quand vous allez voir la liste global de l'équipe de direction globale des transformateurs, il y a plus de femmes que cela.
Lors d'une conférence de presse ce mardi, la coalition de l'opposition Wakitama, dont vous êtes membre, a dit vouloir faire partie de la solution à travers le dialogue. Est-ce que cela signifie que les appels à manifester contre la junte au pouvoir sont terminés?
Non, pas du tout. Nous avons dit que si nos propositions ne sont pas acceptées, ne sont pas prises en compte, nous allons continuer avec la désobéissance civile et les marches. Nous l'avons dit au président Déby, paix à son âme, que s'il voulait s'entêter et continuer, nous allons marcher jusqu'à ce qu'il chute. Nous n'avons jamais voulu qu'il meure, mais il ne nous a pas écoutés. Nous avons eu 16 personnes tuées, nous avons mis 200 personnes arrêtées, plus de 450 personnes blessées. Nous n'allons pas arrêter jusqu'à ce que la justice soit au rendez-vous. Nous voulons le dialogue sincère. Et aujourd'hui, nous disons au Conseil militaire de transition que la transition à laquelle nous croyons, ce n'est pas une transition prise en otage par quelques militaires. C'est une transition où les civils et les militaires joueront leur rôle. Il ne faut pas que des militaires imposent leurs lois aux civils. Et ils ont gardé dans la charte le côté renouvelable de la transition, alors qu'ils jurent la main sur le cœur que la transition aura une durée limitée. Pourquoi ils ne mettent pas cela dans la charte? Ils ont dit qu'ils ne seront pas candidats aux élections qui vont venir. Ils l'ont dit devant l'Union africaine et devant tout le monde. Pourquoi ils ont du mal à mettre ça dans la charte?
La coalition Wakitama reconnaît-elle aujourd'hui le pouvoir militaire?
Un pouvoir qui s'impose par la force de l'arme. C'est un pouvoir qui est là. Est-ce que nous l'acceptons tel qu'il est là? Non.
Docteur Succès Masra, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Président du Parti des Transformateurs au Tchad.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous parlons du Mali. Le colonel Assimi Goïta, devenu président de transition, va-t-il respecter les engagements pris hier lors de son investiture? Sera-t-il l'homme providentiel ou plutôt un bourreau pour son pays, le Mali? Nous en parlons ce soir avec trois invités. Maître Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la Justice. Il est en ligne de Dakar. Maître Konaté, bonsoir.
Bonsoir.
Et nous avons également en ligne de Bamako Étienne Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale du Mali. Vous êtes également, M. Sissoko, enseignant à la Faculté des sciences économiques et de gestion à Bamako. Bonsoir.
Bonsoir.
Et également dans la capitale malienne, Dr Ali Tunkara. Bonsoir, Dr Tunkara.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, auteur de l'ouvrage « Mali, analyse socio-historique des conflits nord et centre ». Merci messieurs d'être avec nous. Alors, dans son discours d'investiture hier, j'en parlais, le colonel Assimi Goïta a fait quelques promesses sur lesquelles, évidemment, nous n'allons pas toutes revenir. Mais il était surtout très attendu sur les engagements politiques relatifs à la transition. Le Mali va respecter ses engagements à l'égard des organisations sous-régionales, régionales et la communauté internationale, a-t-il dit. Sur ce point, et je commence par vous, Monsieur Konaté, est-ce que vous avez été totalement rassuré en l'écoutant prendre des engagements sur le faire des promesses sur le respect des engagements du Mali?
Ce n'est pas moi qui ai besoin d'être rassuré que le Mali et le Malien dans leur ensemble. Je pense que les engagements qui ont été indiqués hier sont les engagements qui étaient attendus par la communauté internationale. Sur cette base-là, personne n'allait se risquer à prendre le contre-pied de ce qui était attendu à ce niveau-là. Entre les dire et le faire, il faut voir exactement quelles sont les intentions réelles des autorités militaires maliennes qui se mettent en place et qui ont pris cet engagement renouvelé, cet engagement qui est conforme aux attentes du Mali et des Maliens, et qui est aussi conforme à la communauté, à ce qu'attend la communauté internationale. De ce point de vue-là, rassuré, non, je veux dire, je ne suis pas un naïf, je regarde les faits et gestes des gens avant même de se prononcer. Le discours d'hier est un discours, ce sont des faits et des gestes qui sont attendus localement.
Êtes-vous aussi prudent, docteur Tunkara, que M. Konaté?
Oui, je pense que l'optimisme prudent doit être démise quand on sait quand même que ce qui a cruellement manqué à cette transition dans le contexte malien, c'est la constance et la cohérence des hommes qui la portent jusqu'ici, en l'occurrence ces officiers supérieurs. S'agissant de la charte de la transition ou même de la constitution de la République du Mali, aucun de ces textes fondamentaux jusqu'ici n'a été respecté. Ni l'une ni l'autre, ni la pension ni la constitution n'est utilisée par ces officiers supérieurs. L'usage qu'on fait de ces documents est un usage à géométrie variable. Donc, effectivement, aujourd'hui, comme le disait tantôt Maître Konaté, les Maliens, dans leur écrasante majorité, certes, fondent un espoir sans précédent sur cette élite militaire, mais le que l'espoir, malheureusement, on ne peut se permettre de l'évaluer que dans la temporalité. Mais c'est vrai que le discours du président Guaita, au-delà des engagements dont il est question ici, c'est un discours quand même qui reste un peu flou. Il n'a pas été précis, par exemple, si lui-même va être candidat au terme de la transition ou pas, ou on sait que beaucoup...
Mais sur ce point-là, c'est déjà très clair, les engagements vis-à-vis de la CEDEAO qui ont été pris, même avant le coup d'État contre le président de transition, Badao, était clair, les responsables de la transition ne pourront pas être candidats à la présidentielle.
Mais je pense qu'au rythme de l'évolution de la situation sociopolitique de l'État que connaît le Mali, une telle hypothèse n'est pas à exclure. Quand on sait quand même qu'il y a certains proches du Guaita qui l'encourageraient à aller dans ce sens, lesquels proches n'ont pas été sommés par Guaita lui-même. Ils ont été niés qu'ils utilisent des mains qui réitèrent effectivement que du Guaita, lui, le Premier ministre, ne serait candidat aux élections à venir. Je pense que, vu l'état de boycottage dans lequel se trouve le Mali, à la fois par les pairs, même par la communauté internationale, une telle assurance allait être un gage du retour à la normale, à mon entendement.
Monsieur Sissoko, sans revenir ou commenter ce que vient de dire Monsieur Tunkara sur le fait que le président de transition, Assimi Goïta, pourrait bien se présenter à la prochaine présidentielle contre les promesses faites à la CEDEAO. Mais je voudrais que vous nous disiez sur lequel des points des engagements politiques a-t-il pris. Vous êtes le plus prudent.
Moi, je souscris entièrement aux propos de Maître Konaté et de Dr Tunkara sur les réserves formulées, parce que aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est dans cette situation parce que la junte s'est assise sur les principes démocratiques en République du Mali. Ils se sont assis également sur la charte de la transition. Et donc, de mon point de vue, des simples déclarations, un simple discours n'est pas de nature ni à rassurer le peuple malien, ni à rassurer la communauté internationale.
Avant de vous laisser poursuivre, M. Sissoko, je fais observer que vous dites que la junte s'est assise sur la charte de la CEDEAO et la charte de la transition, mais en même temps, on a laissé faire. Que ce soit la CEDEAO, que ce soit les Maliens, on n'a pas beaucoup entendu
d'opposition. Quel est le contexte dans lequel tout cela s'est passé? Le seul mouvement organisé actuellement en République du Mali, c'était le M5-RFP. Et vous avez suivi que tout de suite après le coup de force, vers 20 heures déjà, le M5 avait été convoqué par les militaires et on leur a offert sur un plateau d'argent
la primature.
Donc cela a permis à calmer dans un premier temps les choses. Un second argument qui est l'avis controversé de la Cour constitutionnelle qui a mis fin au débat juridique qui pouvait être soulevé, et malheureusement les autres formations politiques n'étant pas suffisamment organisées n'ont pas pu tout de suite prendre le relais. Mais cela...
Il y a un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'en est suivi et qui n'a pas remis en question l'annonce faite par la Cour constitutionnelle selon laquelle Goïta a été fait président de transition.
Donc, exactement. J'expliquais justement qu'il fallait une réponse de la CEDEAO, une réponse de la communauté internationale qui soit à la mesure de l'affront qui a été fait à la démocratie malienne. Mais malheureusement, la CEDEAO s'est pliée sur la base de principes que seule elle-même connaît. Mais de mon point de vue, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir comment les forces politiques maliennes, comment les forces de la société civile malienne sont en train de s'organiser parce que aujourd'hui, il faut très clairement une opposition à cette junte qui n'a de respect en réalité que pour les seuls principes qu'eux-mêmes ont établis. Et même là encore, il y a matière à débat. Souvenez-vous, pourquoi on n'a pas encore confiance à cette junte? C'est parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun indicateur pour dire que le délai prescrit dans la charte de la transition sera respecté.
Elle ne sera pas. Justement, la question, c'était sur les engagements pris. Il n'a pas pris de délai, mais il a dit qu'il tiendra, que le Mali tiendra ses engagements. Autrement dit, il y aura bien élection en fin février prochain, comme prévu. Autrement dit, un premier ministre civil sera nommé et c'est déjà fait.
Les délais sont connus. Les élections qui devaient se tenir sont connues, les élections présidentielles notamment. Les délais, le chronogramme a été publié et est connu. La charte dit clairement que le délai de la transition, c'est 18 mois. Mais de mon point de vue, il faut encore se méfier parce que, comme l'a rappelé quelqu'un tout à l'heure, tout est fait aujourd'hui pour nous amener à une situation de crise où on sera finalement incapable d'organiser les élections à bonne date. Et aujourd'hui, la mobilisation qui est en cours en République du Mali, c'est justement pour faire obstacle à ce projet-là, pour que tout soit mis en œuvre, tant sur le plan matériel en termes d'organisation des élections, que sur le plan législatif en termes de révision d'un certain nombre de textes pour doter le pays finalement d'un organe capable d'organiser des élections crédibles et des élections fiables.
Merci.
Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a encore de la place pour la lutte. Tout cela reste un vœu et il faut se battre pour l'obtenir.
Merci beaucoup, Monsieur Sissoko. Nous allons marquer une courte pause et on se retrouvera pour continuer à analyser les promesses faites par le nouveau président de transition et parler aussi de sa capacité à les tenir. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Nous parlons ce soir du Mali, le nouveau président de transition qui a pris un certain nombre d'engagements hier lors de son investiture. Va-t-il les tenir? Nous en débattons ce soir avec Dr Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Il est à Bamako. Et également dans la capitale malienne, Étienne Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur, et l'ancien ministre malien de la Justice, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, qui est en ligne de Dakar au Sénégal. Maître Konaté, vous l'avez dit hein, en début de vos propos que M. Goïta a dit à l'endroit de la communauté internationale ce qu'elle voulait entendre. Est-ce que cela signifie pour vous que c'était un discours destiné uniquement à cette communauté internationale et qu'au fond, il n'y a aucune réelle volonté de tenir ses promesses?
Alors, je pense que c'était un discours de circonstance, visiblement, parce que lorsqu'on a réuni autant de monde en interne et qu'autant de monde vous entend et vous écoute à l'extérieur et qu'ils vous suivent également, vous n'avez pas d'autre choix que de tenir ce discours-là, c'était un discours de principe. Et de ce point de vue-là, il faut le saluer. Sauf que ce discours de principe vient à la suite d'une série de violations qui font qu'aujourd'hui, on est en légitime droit d'être sceptique vis-à-vis de ce qui se passe. Premier point, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il faut être à même de pouvoir évaluer, de jauger ses capacités, ses compétences, son engagement et sa volonté.
Oui, vous l'avez dit, je l'ai précisé, qu'il y a une bonne distance entre le dire et le faire.
Je vais préciser sur les engagements. Par exemple, l'engagement qui consiste à tenir des élections en février 2022. Madame, déroulez aujourd'hui le processus. Nous sommes incapables aujourd'hui de tenir des élections en février 2022 pour la simple et unique raison aujourd'hui que tous les instruments qui concourent aujourd'hui à l'organisation de scrutins dignes de ce nom n'existent pas. Les fichiers électoraux n'existent pas. Les trois quarts du territoire national ne sont pas à même de pouvoir recevoir une élection aujourd'hui. Les acteurs administratifs qui sont chargés de l'organisation des élections n'existent pas. Et le débat politique est loin d'être consensuel rien que dans ce domaine. Parce que parler d'organisation d'élections, c'est parler donc d'instruments, c'est parler donc d'un code électoral qu'il faut peut-être revoir, corriger et rendre opérationnel sur pas mal d'aspects. Rien que sur ce point aujourd'hui, quand on est militaire à la tête de l'État, quand on est aujourd'hui un Premier ministre issu d'une couche politique, quand on n'est pas capable aujourd'hui de réunir un consensus politique autour de ces questions essentielles, dites-moi comment et par quels moyens vous pouvez poursuivre ce processus. Il y en a bien d'autres encore. Au plan interne, la question de la sécurité engage au plus haut sommet des militaires qui sont accaparés par la question politique. Aujourd'hui, des engagements sur lesquels les Maliens s'attendent aujourd'hui, la lutte implacable contre la corruption, la recherche de la cohésion nationale et de l'harmonie, voilà des choses sur lesquelles en 8-9 mois, pour des gens qui n'ont aucune représentation ni représentativité politique, veulent aujourd'hui engager le débat vis-à-vis d'une catégorie de classe politique qui sont totalement sceptiques vis-à-vis d'eux.
Monsieur Konaté, c'est vrai que du côté de l'URD, hein, le parti de fin Soumaïla Cissé, il y a également des doutes, notamment pour ce qui est du respect de ce calendrier électoral. Donc vous êtes en train de nous dire que d'après votre analyse, le colonel Assimi Goïta a fait des promesses sur ce point, c'est-à-dire la tenue d'élections en février prochain, tout en étant conscient que cette échéance n'est pas réalisable.
Mais je parle au plan pratique et au plan de ce que je sais. Pour avoir été ministre de la République, j'imagine aujourd'hui que le territoire malien est inaccessible à bien des endroits. J'imagine aujourd'hui que le débat politique sur des questions essentielles en termes de réforme politique, de réforme constitutionnelle, de réforme institutionnelle sont loin d'être des acquis. J'imagine aujourd'hui que la grande cohésion nationale n'existe pas. Madame, vous ne pouvez pas toucher à des aspects essentiels tels qu'une élection si vous ne réunissez pas un consensus politique important, nécessaire et utile autour. Or, Assimi Goïta n'est pas issu de la classe politique.
Il a son premier ministre qui est un homme politique rompu, Monsieur Choguel Kokaïla Maïga, qui devrait peut-être l'aider à cette tâche, non?
Même s'il a un premier ministre politique aujourd'hui, ce premier ministre politique n'est pas représentatif de la classe politique dans son entier. Aujourd'hui, il sort d'un clivage politique qui ne lui donne pas toutes les perspectives de chance de réussite dans un débat politique. Et puis le temps est court. Il n'y a plus que 8 mois, et 8 mois, on a plus le temps de regarder les échéances, de constater son incapacité de faire du surplace pour demain, après-demain, sur la foi de rien du tout, nous demander encore de repousser les échéances, ce qui va être un débat très délicat.
Merci beaucoup. Monsieur Sissoko, vous avez vous aussi exprimé des doutes et sur la tenue de cette élection. Donc peut-être c'est même pas la peine donc d'évoquer l'aspect relatif à la transparence et à la crédibilité de ce processus promis par le colonel Assimi Goïta. Mais je voudrais vous inviter à commenter cette autre promesse qui a été faite. Elle n'est pas politique, elle est plutôt sociale. Il déclare que les 2/3 des fonds de souveraineté de la présidence de la République seront supprimés. Il s'agit quand même de 1,8 milliard de francs CFA par an et qui vont servir aux œuvres sociales et sanitaires, notamment les projets d'adduction d'eau potable et de centres de santé primaire. Est-ce que c'est une annonce forte selon vous?
Il est indéniable que la rationalisation des dépenses publiques, la réduction du train de vie de l'État sont des demandes fortes des populations aujourd'hui. Et donc cette annonce a été bien accueillie par la population malienne. Mais je dis que ce n'est qu'une goutte d'eau parce que, on le sait, la primature, l'Assemblée nationale et d'autres institutions ont des budgets de souveraineté, ont des budgets de cette nature-là, sur lesquels on peut également faire des économies et ou réallouer en tout cas une bonne partie de ces ressources-là qui finalement ne produisent pas les effets escomptés. Et il y a aujourd'hui un travail nécessaire de rééquilibrage de notre budget national pour réorienter une bonne partie de notre budget vers l'investissement. Parce qu'on le sait, c'est l'investissement qui crée la valeur ajoutée et c'est la valeur ajoutée qui crée la croissance économique. Et c'est sur la base de cette croissance économique que la redistribution finalement des richesses est faite. Donc aujourd'hui, sans croissance économique, on ne peut absolument arriver à rien. Vous le savez mieux que moi que l'année 2020 a été sur le plan économique catastrophique pour notre pays, où on a frôlé les moins 2% de taux de croissance, donc une récession. Et la pandémie continue, la crise sécuritaire continue, et avec les sanctions aujourd'hui de la communauté internationale, l'accès au marché international... Donc
c'est une suspension, il n'y a pas véritablement de sanctions, c'est une suspension des organisations comme la CEDEAO, l'Union africaine ou l'OIF.
Oui, la suspension joue sur la crédibilité du pays, et c'est sur cette base de crédibilité-là que nous partons sur le marché international pour nous endetter à travers le système des bonnes obligations et autres mécanismes. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui finalement ne jouit pas de cette crédibilité-là, de cette fiabilité pour pouvoir lever des fonds. Donc de mon point de vue, cet engagement est bien, mais il faut aller au-delà et aller véritablement vers d'autres mécanismes qui existent à l'interne pour rationaliser les dépenses publiques et réaffecter les ressources à des choses beaucoup plus utiles pour les populations.
Docteur Ali Tounkara, on a entendu certains Maliens réagir très positivement en disant que le colonel Goïta démarre plutôt bien. Sur ce point, est-ce que vous pensez que au moins cela se fera, si vous avez des doutes sur le calendrier électoral, mais là au moins c'est lui qui gère ce budget, donc cette promesse devrait être tenue, non?
Oui, mais sauf que c'est vrai qu'il faut quand même saluer l'initiative, elle est très symbolique. Mais concrètement, même pour ne pas être économiste, quelles sont les garanties que ces Maliens qui ont applaudi une telle annonce ont pour s'assurer de l'effectivité de la promesse qui vient d'être faite par le colonel Goïta?
Peut-être à travers la construction des infrastructures sur le plan social, cela va permettre de savoir que oui, ces économies ont été faites et réinvesties dans le social.
J'avoue que si vous interrogez toutes ces demandes sociales exprimées par les Maliens en termes d'accès aux infrastructures de santé, aux infrastructures éducatives et d'autres, ce qu'on pourrait qualifier de services sociaux de base, le coup d'État m'a même trouvé à l'intérieur du pays, vous allez rendre compte qu'effectivement, au-delà de ces gestes symboliques de la part du président de la transition, le chantier reste quand même entier. Ce que les Maliens attendent de Goïta en toute objectivité, c'est la redevabilité. Ce que les Maliens attendent de Goïta, c'est de faire en sorte que tout cet argent censé être justement utilisé dans l'acquisition d'équipements militaires détournés en grande partie, que les autres rendent compte. Ce que les Maliens attendent de Goïta, c'est de les aider en qualité de son statut d'officier supérieur et retrouver une paix durable. Mais je pense que fondamentalement, soyons sérieux avec tous ces défis qui se posent aujourd'hui au Mali. Je comprends difficilement que les officiers supérieurs dans un pays aussi en crise multidimensionnelle se battent pour des positionnements politiques. C'est quand même au-delà du fait, c'est presque scandaleux. Donc aujourd'hui, c'est que les Maliens du Nord, du Centre, même du Sud, attendent les satellites militaires de se faire en sorte que, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, que des réponses appropriées sur le plan sécuritaire soient proposées. Du coup d'État contre le président Keïta aujourd'hui, Goïta et ses lieutenants ne peuvent aucunement dire aux Maliens que sur le plan sécuritaire, l'espoir est permis. Donc je pense que c'est sur ce chantier que les Maliens attendent plus Goïta qu'il renonce à une partie de ses avantages.
Merci. Monsieur Konaté, est-ce que vous dites quand même, après ces promesses qui ont été faites de supprimer une partie des fonds de souveraineté, qu'il y a, d'après vous, quand même une vraie volonté de la part du colonel Goïta de changer les choses?
Il n'a pas le temps, il n'a pas les moyens, il n'a pas la volonté et l'engagement n'existe pas. Le temps est court. Madame, son métier, ce n'est pas de gérer et d'administrer l'État. Il se retrouve en circonstances exceptionnelles. Il faut donner le moyen justement de remettre le Mali sur le sentier de la démocratie, de l'État de droit.
Mais si vous dites qu'il n'a aucune volonté de changer les choses, pourquoi a-t-il autant manœuvré donc pour diriger le pays ?
Alors, vous savez, le réflexe, il est simple. Dès lors que les acteurs politiques rentrent en situation de crise, en Afrique, tout le monde scrute le ciel et attend l'officier militaire qui vient aujourd'hui les départager, faire les arbitres et puis prendre en place, mettre en place le système de transition. Ce qui est demandé à un régime de transition, ce n'est pas de révolutionner les choses. Ce qui est demandé, c'est de simplement aider le Mali à remettre les pieds dans les rails, justement, de la démocratie et de l'état de droit. Donc aujourd'hui, venir prendre des engagements comme il a pris...
Moi, et il n'en est pas capable, selon vous.
Non, mais au-delà, c'est que même s'il en était capable, même s'il en avait la volonté, il n'aura pas le temps, et en plus, il est dans un secteur qui est absolument politique. Les acteurs politiques sont jaloux, donc, de leur prérogative à ce niveau. Ce qui est demandé au colonel Guita et au Premier ministre, c'est de faire en sorte que les 9 mois restants nous mettent aujourd'hui en situation de remettre le pied à l'étrier des acteurs politiques qui sont les seuls légitimes à venir dans ce domaine-là, à reprendre les choses à main sous le contrôle absolu de l'État, des citoyens du Mali. Vous voyez, on en est encore dans notre pays à penser qu'il est arrivé le temps aussi de laisser le pouvoir aux militaires justement jouer leur partition, comme si on ne savait pas ce que c'était le pouvoir militaire dans notre pays et en Afrique. Vous voyez, donc concrètement aujourd'hui, on banalise le coup d'état militaire qui n'a plus aucun sens pour les gens et on leur demande de pouvoir prendre en charge la transition et de la conduire. Si ça ne tenait qu'à un certain nombre de Maliens, il n'y aurait même pas de prémisse politique là-dedans. C'est une exigence de la communauté internationale. Moi, ce que je dis aujourd'hui, plus vite il se tirera de là, mieux il se portera. Le contexte de la transition n'est pas le contexte politique qui fasse en sorte que le Mali...
Non, d'après vous, il a intérêt à faire en sorte que la transition puisse avoir lieu dans les délais et que le pouvoir revienne aux civils.
Et tout ce qui lui est demandé, on lui demande simplement, dans la perspective dans laquelle il s'est retrouvé lui-même contre son gré et contre le vœu des Maliens, ils remettent de l'ordre de manière à ce que les acteurs politiques qui sont légitimes reviennent prendre leur mission et l'exécutent convenablement.
Merci, Monsieur Konaté. On se retrouve dans une poignée de minutes pour conclure notre débat sur les chances du président Assimi Goïta de tenir les promesses qu'il a faites devant ses compatriotes ainsi qu'à la communauté internationale lors de son investiture hier à Bamako.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Le président de transition au Mali, Assimi Goïta, tiendra-t-il ses promesses? Débat ce soir avec Étienne Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur, maître Mamadou Ismaël Konaté, ancien ministre malien de la Justice, et docteur Ali Tunkara, directeur du Centre des études de sécurité stratégique au Sahel. Monsieur, encore juste quelques minutes et je vous prie d'être bref, s'il vous plaît. Je vais commencer avec vous, monsieur Tunkara, pour ce mot de conclusion. Alors, au moment où nous faisons le débat, on attend toujours la nomination du gouvernement malien. Le Premier ministre a entamé des consultations. Est-ce que les deux ministres à problème dont l'absence a déclenché le coup d'État, d'après certains Maliens, devraient faire leur retour dans ce gouvernement de Choguel Koukaïla Maïga?
Oui, logiquement, ces deux ministres qui sont à l'origine du changement survenu le mois de mai passé, naturellement, les Maliens attendent le retour dans l'équipe gouvernementale qui sera mise en place par Dr. Choguel Koukaïla Maïga. Mais rappelons quand même que ce que les Maliens attendent concrètement du président Goïta et du Premier ministre Maïga, c'est de choisir des hommes et des femmes au regard de leur efficacité, pertinence et légitimité, et non de choisir pour des raisons liées à des accointances religieuses, même militaires. Or, malheureusement, la probabilité est forte que les hommes et les femmes qui ont rythmé cette nouvelle équipe gouvernementale soient choisis, non pas parce qu'ils sont efficaces, non pas parce qu'ils sont pertinents, mais plutôt ils seraient proches des militaires de Kati ou d'un imam ou du M5. Or, les enjeux font qu'aujourd'hui, dans le contexte malien, un tel choix de l'équipe gouvernementale, malheureusement, n'aiderait pas les pays à arriver au bout du tunnel.
Merci. Et M. Sissoko, en quelques mots, Maïga Goïta, est-ce que pour vous c'est un duo bien en sortie idéologiquement et politiquement?
Non, moi je pense que ce duo n'ira nulle part parce que je l'ai toujours dit, ce duo n'est pas capable de rassembler les Maliens autour des objectifs de sortie de crise. Or, aujourd'hui, ce qui est indispensable, c'est l'inclusivité. Comment quelqu'un qui est issu d'une formation politique comme le MPR ou comme même le M5-RFP, qui a toujours été assez clivant dans ses prises de position, puisse aujourd'hui rassembler les Maliens? Mais si vous permettez très rapidement, aujourd'hui, l'objectif d'aller à des élections n'est pas encore perdu parce qu'il faut redéfinir les contours du programme d'action gouvernemental et élaguer tout ce qui n'est pas indispensable, comme le découpage territorial, les élections communales, les élections référendaires et toutes les autres élections qui sont en cours, et faire focus sur les élections législatives et sur les présidentielles. Maintenant, la question de l'intégrité du territoire va être effectivement au centre du débat. Comme on l'a vu au Burkina Faso, la classe politique, la société civile peut se mettre d'accord et dire là où les élections ne sont pas possibles de se tenir, on va pas faire les élections, et se mettre d'accord sur là où effectivement on peut aller aux élections et avoir de bons résultats. Sur l'instrument également, le même débat peut se faire pour avoir un instrument intermédiaire qui n'est pas l'organe unique, qui n'est pas le système actuel.
Merci. Monsieur Konaté, en quelques phrases, pariez-vous aussi sur le duo Maïga, Goïta ou non? Et aussi, est-ce que il y a plus de risques à ce que Monsieur Goïta soit l'homme providentiel ou plutôt un vrai problème pour la transition au Mali?
Alors, je disais simplement que pour moi, je reste persuadé que le militaire est nettement mieux ailleurs qu'à la tête de l'État. Le duo, je n'en sais absolument rien. Mais connaissant Choguel Maïga, qui est un homme de conviction, de volonté et d'engagement, je ne donnerai pas très cher de sa peau pour faire un compagnonnage.
Donc, il faut s'attendre à de frictions, peut-être plus...
Je n'en sais absolument rien. Ce n'est pas mon souhait, mais le rapport politique entre les deux est difficile. Je termine juste sur une anecdote. Je discutais avec un confrère de mon cabinet qui me disait qu'il est Bamana, il est Bambara, donc il est issu d'un village Bambara. Il me disait qu'à l'entrée du village Bambara, il y a toujours un chef et à la sortie, il y a un chef. Le premier chef est le chef du village. Le deuxième chef est le chef des esprits, des gris-gris et de tout ce qui est mystique. Et il dit qu'en société Bamana, on ne confie jamais ces deux chefs-là à une seule personne. Sinon, il accapare tout le pouvoir et c'est un peu la situation des militaires aujourd'hui. Le rapport de force est largement à leur faveur et Goïta n'a pas hésité au moins une première fois d'embastiller le président de la transition et le premier ministre pour le faire une deuxième fois. Je crois qu'il n'hésitera pas.
Donc, à bon entendeur pour M. Kokalé Maïga.
Salut.
D'accord. Et maintenant, sur les chances qu'il soit l'homme providentiel, est-ce qu'il peut vraiment être celui qu'on attend pour aller vers cette transition rapide souhaitée, ou va-t-il être plutôt un handicap pour celle-ci?
Le temps est court pour le colonel Goïta pour que l'éclair se révèle à lui. Il verra plus le feu que l'éclair.
Merci beaucoup, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, ancien ministre de la Justice du Mali, d'avoir participé à ce débat. Vous étiez en ligne de Dakar et en ligne de Bamako au Mali. Étienne Fakaba Sissoko, enseignant-chercheur au Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale du Mali, également enseignant à la Faculté des sciences économiques et de gestion à Bamako. Merci également à vous, Dr Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, auteur de l'ouvrage « Mali, analyse socio-historique des conflits nord et centre ». Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à retrouver en rediffusion à 23h, heure de Paris, et bientôt en podcast sur notre site internet africaradio.com. Merci à Edouard Ning et à Hugo Vallière qui m'ont aidé à vous proposer cette émission. À demain.